Préparation au mariage, session de novembre-décembre 2018. Le mariage dans la foi au Christ Sauveur. En attendant la bénédiction de Dieu pour leur mariage à l'Église catholique, les deux fiancés, même si l'un d'eux a des doutes sur la foi, ou s'il est baptisé mais non catholique, ou s'il est d'une autre religion, ou sans religion, viennent auprès du Créateur. Le principe, voyez-vous, d'un mariage religieux, si vous avez voulu vous approcher de la religion, c'est parce que vous avez, au moins l'un des deux croit en Dieu. Oui. Dieu, c'est un être intelligent, tout-puissant, créateur, qui est l'origine de la vie, de la matière, de la biologie, des cellules. Et ce n'est ni le temps, ni le hasard, ni la nécessité, ni la sélection naturelle qui a fait la complexité des êtres qui nous entourent. Ce smartphone n'a pas été cueilli sur un téléphonier, mais un téléphonier spécial, parce que pour, disons que pendant 1 milliard d'années, au chaud, vous voyez, c'est un téléphone qui a des racines dans de la silice, dans du fer, du cuivre et des métaux rares, pour que parmi ces fruits, il y ait des téléphones. Voyez. On sait bien que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Personne ne dira que c'est par sélection naturelle ou par hasard ou par milliards d'années que ce téléphone est là. Mais c'est vrai pour un trombone. Voyez. C'est vrai pour cette agrafe. Voyez. Regardez cette agrafe, elle est constituée d'atomes de métallique, de fer, probablement, et ce fer a été fondu, mis en petites lignes et tordu pour tenir des feuilles ensemble. Cette agrafe est une preuve de l'existence d'une intelligence humaine. Ce n'est pas par hasard que ce morceau de métal est sur ces feuilles. Ces feuilles elles-mêmes sont des morceaux de bois malaxés et pressés. Ça ne se trouve pas à l'état naturel, ça. Et il n'y a pas d'arbre à feuilles. Eh bien, tout ça, ça prouve l'existence d'une intelligence humaine qui transforme. Et je peux vous assurer que même un atome de fer, un atome d'hydrogène, est extrêmement compliqué et ne peut pas être le fruit du hasard. Encore moins une cellule, une bactérie, cette main, ces ongles au bout des mains, ces tendons, ces os agencés, ce cœur qui bat et qui expulse, prend le sang et l'expulse à chaque battement en ouvrant 16 valves et en les fermant, mes yeux qui décrypte la longueur d'onde des photons suivant les surfaces sur lesquelles ils rebondissent. Tout ça, c'est l'œuvre d'un être extrêmement intelligent et même plus intelligent que l'homme. Parce que, bien quel que soit le transhumanisme futur, je demande à voir, c'est le cas de le dire, le jour où on fera une rétine artificielle, où on fera un nerf optique artificiel. Mais pourquoi pas, hein, à force de recherche et à force de copier sur la nature. Seulement, c'est une œuvre extrêmement intelligente. Donc, si vous vous mariez religieusement, c'est que vous croyez qu'il y a un être intelligent qui est au-dessus de vos vies et à qui vous devez rendre des comptes sur le bien et le mal que vous faites dans vos vies. C'est ça, le mariage religieux. Mais quand bien même on a des doutes sur la bonté divine ou sur l'existence de Dieu, quoique on est tous un peu superstitieux, on est tous un peu à se dire quand même, tout ça est venu du hasard et de la nécessité. Il n'y a aucun être intelligent. Quand on meurt comme un moustique, on meurt comme un pigeon qui se fait écraser par un camion. On n'a pas plus d'existence qu'une bactérie qui est détruite par de l'eau de Javel. Non, mais c'est impressionnant quand même. Notre parole, nos relations, le fait que l'espèce animale humaine, mettent des années à être éduqués par rapport aux autres espèces animales. Tout ça, c'est du hasard. Et donc, si vous voulez, le mariage religieux, il est fondé sur la foi en l'existence de Dieu. Si vous n'y croyez pas, il suffit que vous vous mariez naturellement, tranquillement, socialement, mais comme quand même il y a un minimum d'observation naturelle sur le mariage, on se dit, mais en général, c'est un homme et une femme, et ça a toujours été comme ça, et on a toujours fait la fête. Parce que c'est censé vivre, durer longtemps. Quand on a mis le mot mariage sur l'union de deux femmes ou de deux hommes, vous voyez, on ne comprend pas. Parce que le mariage, c'est le fait d'une complémentarité sexuelle. Vous voyez? Et je le développerai, mais vous verrez que je suis très cru en ces matières. Mais vous aurez une préparation mariage, comment dire, fondamentaliste, intégriste. C'est pas parce que je suis en soutane, il y a d'autres prêtres en soutane qui sont bien plus gentils que moi à Paris, et vous êtes dans l'Église catholique. Hein, mais si vous voulez, il y a un moment, par rapport à d'autres préparations au mariage, beaucoup plus cool et beaucoup plus dans l'air du temps, là vous allez avoir du cru, du très cru. Et donc vous l'écouterez, vous en ferez ce que vous voudrez, mais au moins vous vous direz, tiens, j'ai une préparation de mariage comme au Moyen Âge. Vous voyez? Mais vu que l'espèce humaine n'a pas beaucoup bougé depuis le Moyen Âge, si vous voulez, vous pourrez faire la comparaison. Donc, si vous êtes là, c'est que vous considérez qu'il y a un créateur, père, qui aime ses enfants. Vous voyez, une des causes de l'incrédulité de nos jours, ben, c'est la mort des bébés, c'est les fausses couches, c'est les drames, c'est les catastrophes naturelles. Voilà. Comment Dieu peut-il permettre ça? Comment pouvez-vous dire que Dieu est Père? Il s'intitule Père. Il est bon alors de se rappeler que qui est notre Père qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Donc tout ça, c'est le christianisme. Vous voyez, je vous ferai une préparation dans le bouddhisme, ou plutôt dans l'hindouisme. Je vous donnerai des vérités naturelles qu'ils ont, mais j'aurais du mal à adhérer à l'hindouisme parce que je sais qu'il y a telle, telle, telle erreur. Et voyez-vous, lorsque les hindous se marient, c'est une semaine de fête. Et les parents s'endettent pour 20 ans. Imaginez la somme qu'ils investissent pour un mariage. Alors dans les villages hindous, c'est la folie furieuse. D'ailleurs, l'épouse doit avoir tout l'or, toute sa dot jusqu'à la fin de ses jours. Donc les parents la dotent quand suivant leurs moyens. S'ils sont pauvres, elle a un anneau dans le nez. Si ils sont un peu plus riches, elle a un collier. Elle en a aux pieds, aux jambes, partout. S'ils sont très riches, elle a 4 kilos d'or sur elle, ou 5, ou 10 même, si les banquiers d'ailleurs jalousent cette tradition de l'Inde d'aimer beaucoup l'or et liée au mariage. Mais imaginez la tête des parents lorsqu'ils leur annoncent le divorce. Non, ça c'est en ville, ça. C'est les citadins qui disent, oh, nous on est des hindous, on est dans notre village, on s'est ruiné, on t'a donné une dot, c'est pas possible. Et c'est pour des raisons donc traditionnelles, familiales, financières, qu'ils ne divorcent pas. Eh bien, dans le christianisme, on ne divorce pas, normalement, par charité. Et de nos jours, c'est difficile puisque la charité se refroidit. En effet, même si des fiancés ont reçu une transmission des beautés de la foi chrétienne, c'est parfois un peu lointain, et la baisse actuelle de la présence à la messe dominicale atténue quelque peu la prière habituelle dans la présence du Dieu Sauveur qui partage nos vies. Parmi des personnes qui se préparent au mariage, parfois il y a des gens qui ont été baptisés et qui n'ont même pas fait de catéchisme. Et donc là, ils sont contents, ils sont baptisés, Donc il y a moins de difficultés. Et encore, un non-baptisé et un baptisé peuvent se marier. Mais par contre, si vous êtes baptisé, même si vous n'en rendez pas compte, vous avez une marque et une grâce particulière, un don particulier qui vous poursuit, qui fait que vous n'aurez pas la possibilité de divorcer ou de vous séparer au nom d'une, si vous voulez, d'une avancée spirituelle marquée par un baptême, puisque vous êtes déjà baptisé. Nous verrons dans cette préparation au mariage que le baptême, c'est-à-dire d'être plongé dans l'eau au nom de Jésus, vous oblige à une charité particulière. Tandis que les non-baptisés sont moins tenus par le mariage et peuvent faire un deuxième mariage si ils le font au nom de l'amour du Christ. Mais je vous expliquerai parce que ça vaut la peine de le savoir, même si ça ne vous concerne pas. Mais imaginez qu'il y a eu un couple ici, un baptisé non baptisé, ça a été intéressant pour eux de savoir le pourquoi de la force de leur lien, qui est, attention, hein, fait jusqu'à ce que la mort nous sépare, hein. Mais, voyez-vous, il y a une charité particulière, il y a un amour particulier dans le christianisme. Parfois même, certains fiancés n'ont pas fait leur première communion, reçu Jésus dans la Sainte Hostie, et ne connaissent pas ce trésor tout en étant prêts à l'apprendre éventuellement. Une préparation au mariage peut vous dire, tiens, ben, peut-être que je vais essayer de faire ma première communion, si je ne l'ai pas faite. Également, la confirmation dans l'Esprit Saint. Actuellement, comme les baptisés catholiques sont très peu pratiquants, la confirmation leur est passée au-dessus de la tête. Or, pour le mariage, normalement, on doit avoir ce sacrement. En France, étant donné la catastrophe spirituelle dans laquelle on vit, si on l'exigeait, pour certaines personnes, ça serait trop difficile, trop tôt, trop ceci, trop cela. Donc, on dit, bon, ben, si c'est un peu trop exigeant pour vous de vous préparer à la confirmation, eh ben, on verra plus tard. Donc elle n'est pas exigée comme en Italie ou en Espagne, où on est là, hein, les derniers des Mohicans qui vont encore à la messe, qui arrivent et qui veulent avoir un mariage religieux, ils sont là, ils disent bonjour, voilà, je voudrais me marier, mais c'est bien d'aller quand même à l'église. Eh bien, confirmé! Ah ben je sais pas, c'est quoi la confirmation? Vous savez dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Ben voilà. Et donc la confirmation, c'est la plénitude de l'amour du Père et du Fils, qui vous permet de résister à toutes les mesquineries et à toutes les querelles inutiles et à tous les égoïsmes et à tous les caprices de la vie à deux, avec une grâce particulière d'amour mutuel, qui est la grâce de la confirmation. Bon, alors, donc il y a une préparation à la confirmation à partir de janvier, et on est confirmé ici en juin, mais il ne faut pas non plus que ça soit artificiel. Mais en Espagne ou en Italie, c'est POM! Hein, bon, vous êtes inscrit pour le mariage, donc vous êtes inscrit en juin pour la confirmation. Ensuite, amour du père et du fils, pourtant demandé ordinairement pour le mariage et parfois absente. La préparation au mariage n'est donc pas seulement l'occasion d'un enseignement sur la promesse de vie commune, sur les joies et les enrichissements mutuels, comme sur les difficultés. Des conseillers conjugaux expérimentés peuvent en parler avec sagesse. Vous voyez, si vous voulez une bonne session Psychologie Magazine, il y a des bouquins. Il y a des gens qui vous font ça très bien. En général, c'est assez payant. Nous, on vous demandera une offrande, comment dire, à la fin de la préparation, qui est de 50 euros. Dans des paroisses, ils vous demandent 200. 250, 300, n'est-ce pas? Il y a des gens, du coup, ils se marient simplement à la mairie, hein, quand les curés sont trop gourmands. Mais ici, donc, vous entendrez parler de choses qui ne sont pas uniquement de bon sens naturel et des vertus naturelles, de savoir comment gérer votre salle de bain par rapport à vos brosses à dents, par rapport à votre propreté personnelle, pour que vous ne disputiez pas à laisser vos affaires par terre. Vous voyez, ça, c'est, si vous voulez, si les prêtres peuvent en parler, ils finissent par le savoir, mais si vous voulez, eux, ils ont donné leur vie pour enseigner plus. L'engagement dans la foi en présence et sous le regard quotidien du Père est particulier. Ainsi, les fiancés seront invités à trouver des temps de prière dans leur vie de couple. Ils s'engageront à recevoir leurs futurs enfants dans la bonne nouvelle du baptême et de la connaissance du Sauveur Jésus dans le catéchisme de l'enfance. Par contre, voyez-vous, il faut que vous arrêtiez tout de suite. Si vous considérez que vous n'avez pas à baptiser vos enfants bébés et que vous n'avez pas à les catéchiser, alors il ne faut pas faire de mariage religieux. Ce n'est pas honnête. Il y a un engagement dans le mariage religieux à transmettre la foi qui préside à votre mariage. C'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez. Et il dit, oh oui, mais non, mais attendez, mais pourquoi vous dites ça? À 8-10 ans, on les laissera choisir. Et s'ils choisissent d'être bouddhistes? Et s'ils choisissent d'être musulmans? Ah ben c'est bien, non? Ben non. Ben non, c'est pas bien. Ouais. Ah ben comment ça, vous n'êtes pas pour le dialogue interreligieux? Ben non. Ça alors? Ben oui, vous n'êtes pas au journal La Croix, vous n'êtes pas sur France Info. Ou sur France Télévisions ou France Inter. C'est... Ici, on vous dit, il est bon d'être catholique. Et mais attention, vous expliquez pourquoi. On va essayer de vous dire pourquoi le catholicisme est dans la preuve de l'existence et de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'apologétique. On va vous dire pourquoi le baptême est surnaturel. Pourquoi la grâce du baptême agit dans le bébé, comme il peut agir dans l'adolescent, comme il peut agir dans le vieillard. Vous avez des gens qui sont baptisés à 72 ans. Vous avez la grande... Alors, dès qu'on a une grande intellectuelle ou un grand scientifique, youpi, mais vous avez la grande spécialiste de la Grèce antique, Madame de Romilly, qui a fait sa première communion à 92 ans. Vous voyez ? Mais elle avait été baptisée, elle était d'origine juive, elle avait reçu le baptême, ce qui accomplit la foi juive d'ailleurs, mais on l'expliquera. Mais elle n'avait jamais communié encore. Ben, vous voyez, à 92 ans, sans fausse honte, elle a communié. Pourquoi ? Parce que on lui a parlé de cette occasion de rencontrer Dieu dès cette vie terrestre, avant de le voir face à face au moment de notre mort. Si l'un des fiancés n'est pas catholique, en acceptant d'accompagner son futur conjoint, il est conscient de son engagement de faire son possible pour transmettre sa foi. Mais n'ayez pas peur, ce seront des évocations rapides qui, si elles sont bien connues de certains, qui attendent un enseignement sur le mariage, ne seront pas trop longues. On parlera aussi du mariage. Si, si. Elles occuperont des moments du premier dimanche et des six rencontres. C'est la raison pour laquelle nous commencerons cette préparation par une méditation de la puissance et de la beauté du Créateur, des purs esprits, les anges, et de la nature humaine, corps et âme. J'ai toujours pas corrigé cette faute. Voilà. Le récit de la Genèse qui nous inspirera pour atteindre à l'intention de Dieu qui donne vie à l'homme et à la femme. Dans une seconde partie, nous verrons dans l'histoire religieuse de l'humanité et dans l'histoire sainte du peuple juif, les promesses et les messages du Père pour donner toujours l'espérance du bonheur et du salut dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc on fera de l'histoire sainte. Voilà. La naissance du Christ au sein de la Sainte Famille, de la Vierge Marie et du Père adoptif Saint Joseph est l'occasion de recevoir la nouvelle de l'incarnation d'un Dieu qui s'est fait homme, image du mariage entre Dieu et l'humanité, mariage du Christ et de l'Église. Eh bien, non, par la croix et la résurrection, l'agneau de Dieu, l'époux, annoncé par Saint Jean-Baptiste, va accomplir le mystère du passage de la mer Rouge en la nuit pascale. Il offre sa vie pour nous donner la vie éternelle. Vous voyez, imaginez le résumé que ça représente. C'est incompréhensible. Je répète. La naissance de Jésus, de Marie et Joseph, miraculeuse en Marie et Joseph qui est père adoptif, l'incarnation, c'est une image du mariage entre Dieu et l'humanité. Mais je vais vous l'expliquer, ça, c'est quand même intéressant à savoir. Mariage du Christ et de l'Église. Bah, vous allez peut-être l'entendre le jour du mariage, cette expression. Mais au moins que ça vous soit expliqué. Par la résurrection, la croix et la résurrection, l'agneau de Dieu est un époux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Annoncé par Saint Jean-Baptiste. Et le mystère de Pâques. Qu'est-ce que c'est la fête de Pâques ? À part, vous voyez ? C'est quoi ? C'est un mariage, la fête de Pâques ? Ça, c'est la première nouvelle. Donc, la séance 3 développera les fondements principaux de la relation d'amour de l'homme et de la femme, à l'image de l'amour du Christ pour l'humanité. L'engagement n'est pas forcé, mais libre. Et il est une alliance. Il est un choix en conscience. Première connaissance des qualités et des défauts. Il est dans la fidélité et l'unité. La séance 4 abordera le projet de vie, vie quotidienne, vie professionnelle, fécondité et accueil des enfants. La séance 5 se concentrera sur la grâce qui accompagne le mariage, sacré ou sacramentel, l'invitation à la conscience de la présence de Dieu et de son aide, l'importance du sacrement de confirmation. Et la séance 6, nous accueillerons le témoignage d'un couple. Alors en ce moment elle est assez souffrante, donc nous verrons si c'est elle ou un autre couple qui viendra témoigner dans la dernière séance. Et la dernière séance, nous ferons le bilan du dossier, de tout ça, et nous essaierons de manger ensemble, et normalement cette salle sera plus conviviale. Là pour l'instant vous avez tous les lots et autres choses de... Très bien. Voilà. Alors, après cette introduction, nous allons passer un petit quart d'heure au tout début et après on va s'aérer. Respirez un bon coup. Voilà. Trop fatigué. L'existence de Dieu, Créateur et Père. Dieu est un esprit éternel, intelligence, volonté et fantaisie, artiste de la création. Dieu est un esprit. C'est quoi un esprit ? C'est un fantôme. C'est quoi un fantôme ? C'est un être qui n'a pas de matière. Ah, vous croyez aux fantômes ? Bah, ça dépend. Si les anges ou si des âmes de défunts se manifestent, les fantômes existent. Mais c'est pas comme dans les films ou les séries télévisées ou dans les jeux vidéo. Quand vous avez vraiment un esprit qui se manifeste, vous rigolez pas du tout. Bon, vous pouvez faire des films justement en faisant des trucages. Mais quand c'est pas un trucage, c'est plus ou moins drôle. Les exorcistes, qui sont des prêtres qui reçoivent mandat du chef des prêtres local, l'évêque, pour faire des exorcismes, ont des manifestations d'esprit qui sont évidentes et donc qui provoquent chez eux un renforcement de leur foi dans l'existence d'êtres différents des êtres humains qu'on voit habituellement. Je vous donnerai un exemple. Il y a une personne possédée exorcisé il y a moins d'un an à Paris. Il y avait un prêtre français et il se trouvait qu'il y avait un prêtre de passage qui avait été invité par le grand exorciste de Paris à participer à cet exorcisme, lui-même étant exorciste diocésain aux Pays-Bas. Ils font des prières par rapport au, comment dire, à la souffrance de cette personne qui dit avoir des hallucinations, des angoisses terribles, des choses absolument pas normales. Alors, est-ce que c'est une personne qui a une maladie psychiatrique? Ou alors, est-ce que c'est un phénomène paranormal et surnaturel? Il prie sur elle, elle prend une voix gutturale, comme dans un film et tout, très bien, mais bon, ça c'est pas... Elle peut très bien être hystérique. Et là, tout d'un coup, là, le prêtre en néerlandais, puisque de toute façon, s'il y a un esprit là-dedans, là, il comprend tous les langages, et lui dit, sors de ce corps, esprit impur, et laisse la place à l'Esprit Saint Paraclet. Et là, la personne se retourne vers le prêtre et lui dit dans un néerlandais parfait, non, je ne sortirai pas de ce corps, j'y suis très bien, et je ne retournerai pas en enfer. Mais comme dans un film. Sauf que vous avez le prêtre, les deux gars qui étaient là au cas où, le prêtre néerlandais, le prêtre français et les deux personnes qui sont là, un peu costauds, si la personne commence un peu à s'agiter. L'autre, enfin, après les prières, ils ont fait un bilan, un débriefing, comme on dit. Et là, le prêtre néerlandais a dit, elle est possédée. Parce qu'elle m'a parlé dans un néerlandais parfait, avec un accent parfait. Et cette femme de 23 ans, parisienne, ne peut pas parler comme ça. Vous voyez? C'est simple. Donc sachez que les possessions existent et que les démons existent. Oui. Alors pourquoi l'Église ne filme pas ces exorcismes, ne fait pas une pub et tout ça? Mais parce que, d'abord, on l'enseigne, d'une part, et d'autre part, après, ce sont des personnes humaines qui sont l'objet de ça. Donc on respecte leur intimité, leur vie privée. On ne fait pas de film de ça. On n'y croit pas. Mais on ne va pas, si vous voulez, on va vous en parler. Vous ne nous croyez pas. Mais on ne va pas manquer de pudeur par rapport aux personnes qui le vivent. Dieu, lui, est un pur esprit. C'est-à-dire que c'est un être qui n'a aucune matière. Il est éternel, c'est-à-dire qu'il a toujours existé. Quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est l'être. Il est l'existant. Et il pourrait en lui-même exister sans créer. Il a toute la richesse, toute l'intelligence de tout ce qui est possible de créer. Mais surtout lui-même. Et Dieu pense de toute éternité. Quand vous avez le prophète Moïse qui lui demande son nom à Dieu, qui a parlé au peuple hébreu, nous verrons plus tard, il lui demande quel nom spécial je vais donner au peuple. Eh bien, Dieu lui dit, tu diras, je suis, m'envoie auprès de vous pour que vous sortiez d'Égypte. Je suis. Yahvé en hébreu. Jéhovah, ce sont des voyelles qui ont été utilisées dans la lecture à la synagogue pour s'arrêter, pour ne pas prononcer le nom de Dieu, qui est sacré. Donc ce sont des voyelles absurdes. C'est comme si vous, au lieu de table, vous dites tiblo. J'ai posé mes dossiers et les feuilles sur la tableau. Je me dis, mais ça ne veut rien dire. Sur la table, vous voulez dire de la table. Et donc, quand à la synagogue, on voit Jéhovah au lieu de Yahvé, ça ne veut rien dire. Et le lecteur s'arrête et dit Seigneur. Et donc, c'est pour les témoins de Jéhovah, c'est une secte, comment dire, du 19e siècle, et qui, s'étant ayant pris la vocalisation comment dire, au pied de la lettre, dit Jéhovah, mais quand vous dites ça à un juif, il est mort de rire. C'est une de leurs incohérences, sans compter leur négation de la crucifixion de Jésus, de sa divinité. Voilà. C'est une secte chrétienne, mais qui nie la divinité de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection. Donc, Dieu, lui, se pense. Et c'est la particularité des esprits. Les anges réfléchissent. Étymologiquement, le verbe réfléchir, c'est se faire une flexion sur soi-même, réfléchir. Donc on se regarde le nombril, sauf que là, on regarde sa propre pensée. C'est ça, réfléchir. On revient sur sa pensée. Les anges le font, les hommes le font, Dieu le fait. Sauf si vous aimez beaucoup, beaucoup les animaux, vous avez un chien ou un chat que vous aimez énormément, excusez-moi, ils ne réfléchissent pas. Ils vivent l'instant, dans un instinct qui peut être extrêmement fin, extrêmement affectueux pour les animaux de compagnie. Mais ils ne réfléchissent pas. Un chat ne sait pas ce que c'est que la chaleur. Il ne réfléchit pas à la chaleur. Il la sent, il la cherche et il s'y blottit. Mais jamais un chat ne saura et ne veut savoir pourquoi c'est chaud, ni comment un feu s'allume, ni pourquoi le moteur est chaud. Il va se mettre sur le capot dans le garage et il se fout complètement de savoir que les pistons ont été tellement actionnés que le moteur est chaud. Jamais il n'y pensera. Et même le chien qui ouvre une porte, parce qu'il a observé que l'être humain a touché cet endroit pour ouvrir la porte, il se moque complètement de savoir ce que c'est qu'une poignée, des gonds, la notion même de porte. Il veut passer de l'autre côté. C'est l'instinct. L'être humain, lui, réfléchit. Pourquoi je mange? Pourquoi j'existe? Pourquoi je mange? Pourquoi j'ai les yeux en face des trous? Pourquoi j'ai pas des yeux derrière la tête? Mais ils sont tous morts par sélection naturelle, hein, tous ceux qui avaient les pieds comme ça et les yeux comme ça, vous vous rendez compte, les arbres, les trous, les fossés, tout ça. On se moque du monde. On a toujours eu les yeux en face des trous. Mais pourquoi? Pourquoi on a des oreilles? Pourquoi on a des yeux qui décryptent les longueurs d'onde des photons qui rebondissent sur les surfaces? Pourquoi on a des mains? Le singe ne se demande pas pourquoi on a des mains. Le singe, quand l'un d'entre eux meurt, il peut être triste. C'est-à-dire qu'il a peur. Il a ce sentiment d'absence de l'autre qui était avec lui. Mais il ne sait pas ce que c'est que la mort. Alors qu'on a dépensé des millions et des millions à les filmer pendant des heures et des heures, on n'a jamais pu vraiment voir un acte surnaturel par rapport à la vie après la mort chez un animal. Vous avez même, ils ont filmé, ils ont été obligés de filmer. Vous avez un bonobo ou chimpanzé, les singes les plus complexes que le bon Dieu a créés, qui sont à côté d'un mort et qui le bougent, quoi. Qui restent à côté, mais il dort, ou il va se réveiller, ou... Et puis au bout d'un certain temps, voilà. Et puis quand ils commencent à sentir mauvais, ils ont l'instinct de la mort, et ils partent. Mais si vous voulez, ils sont pas médecins, ils vont pas lui faire un massage cardiaque, ils vont pas voir s'il y a de la respiration. Ils sont un peu interdits devant la mort. Ce qu'ils fuient par instinct, c'est la souffrance. Mais la réflexion n'est pas dans l'animal, il est dans l'esprit. Et Dieu, lui, est un esprit. Et alors lui, il a une super réflexion. Parce que, si vous voulez, il est tellement Dieu, il est tellement l'être, qu'il connaît même l'être futur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'être Le vrai Dieu connaît tout le futur. Alors vous allez dire, bingo, au moins on devrait être d'une religion où on est des marionnettes dans les mains de Dieu, où c'est le destin, c'est la fatalité. Je suis pas né ver de terre, je suis pas né vache sacrée, je suis né grand singe, mais tout ça c'est du karma, c'est de la fatalité. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas parce que vous allez faire des choix libres dans votre intelligence et dans votre volonté et que Dieu les connaît à l'avenir, par avance, que vous ne les faites pas librement. D'ailleurs, il y a quelque chose d'absolument incroyable de la part de Dieu de laisser à vous vos choix libres, de laisser à votre vie vos choix futurs et à votre responsabilité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de qui vous êtes. Un être humain, c'est un esprit immortel dans un corps d'animal. Et ce corps d'animal a été créé par Dieu pour être un outil universel à un esprit immortel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes immortel tel que vous êtes actuellement. C'est-à-dire que le moment où vous allez être écrasé par un bus tout à l'heure, que vous allez avoir une rupture d'anévrisme cette nuit, ou un AVC demain, ou un Parkinson, un Alzheimer à 45 ans, quand votre corps ne va plus pouvoir supporter votre esprit immortel, il va sortir de votre corps cet esprit, et il va continuer d'exister. Et même la capacité sur la maîtrise de la matière de l'esprit, qui voit mieux qu'avec des yeux, qui sont faits d'atomes, de cellules, qui sont très fragiles. Dieu, voyez-vous, si vous voulez, c'est comme un appareil photo. Celui qui a conçu l'appareil photo voit mieux que l'appareil photo. Il a dans l'abstraction de sa pensée et de sa vue humaine quelque chose de bien supérieur à l'appareil photo. Eh bien, lui, Dieu, alors qu'il n'a pas des yeux, hein, Dieu, il n'a pas de matière, il nous voit, il voit tout. Les anges n'ont pas de matière. Quand ils font des corps d'emprunt, c'est des pures apparences pour rentrer en contact avec nous. Et il voit mieux que nous. Il nous scanne, il voit, ils peuvent nous dire si on a un cancer ou pas, mais ils vont nous laisser vivre notre vie. Et notre âme, lorsqu'elle sort du corps, elle voit tout. Les expériences de mort imminente sont entre l'imagination et peut-être réel. La religion est dans l'expectative par rapport à cela. Vous voyez, des personnes qui se sont senties hors de leur corps et qui ont vu la chambre d'hôpital, qui ont vu toute une scène, ça peut être quand même imaginatif. Mais non, on avait les yeux fermés, on a été transporté, tout ça. Quand vous êtes dans le coma, l'âme entend par les oreilles. Ça va dans l'âme, alors que le corps semble chaos. Et donc, vous avez des gens qui ont eu un accident dans leur jardin et qui ont vu toute la scène, qui ont vu leur famille arriver, les pompiers arriver, tout. Alors qu'ils avaient les yeux fermés, qu'ils étaient par terre... Et ils voyaient tout en l'air. Et pendant ce temps-là, on faisait un massage cardiaque, parce qu'en fait, justement, s'ils voyaient tout en l'air, c'est parce que leur âme n'était plus dans leur corps. Mais sur ce plan-là, voyez-vous, la religion est très prudente. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que votre âme est un pur esprit. Il est indestructible. Il n'y a pas d'anéantissement possible de votre âme. Vous voyez, vous existez en ce moment, vous existerez toujours. Vous penserez toujours. Vous voyez ? Ça ne sera pas un long sommeil, hein, la mort. Hein. Ce sera le temps de la mort. Et tout de suite après, vous penserez. Et non seulement vous penserez, mais là, vous penserez pour toujours. Il n'y aura plus de sommeil. Vous vous dites, ah ben non, non, mais vous inquiétez pas, ça sera bien géré, naturellement. Mais sur Terre, si vous ne dormez pas de temps en temps, si vous ne reposez pas votre corps, votre âme, est dans un stress lié au corps. Mais quand vous êtes affranchi l'instrument corporel, vous pensez et vous penserez toujours. Mais sachez que vous pensez aussi pendant votre sommeil. Les rêves. Oui. On est toujours en activité. Mais attention, les animaux aussi ont une certaine pensée dans leur instinct. Et peuvent rêver, parce qu'ils ont une activité. Mais seulement, voyez-vous, la différence avec les animaux, c'est que nous pensons nous-mêmes. Et nous comprenons ce qui nous entoure. Dieu, lui, est un esprit. Lui a toujours existé. Vous n'avez pas toujours existé. Votre âme n'est pas un être lumineux extraordinaire qui a toujours existé et qui, au moment d'une union d'un homme et d'une femme et d'une conception entre la cellule, le spermatozoïde et l'ovule, hop, vous avez un esprit qui rentre dedans. Non. Dieu crée une âme à chaque conception. Voyez-vous ? Il n'y a pas de réincarnation non plus. C'est-à-dire, quand votre âme sort du corps, vous n'avez pas à attendre une prochaine union sexuelle entre un homme et une femme pour reprendre un corps. Non. Vous voyez ? Il y a des films qui sont très bien faits là-dessus. Avec les effets spéciaux, c'est extraordinaire. Vous avez l'âme qui est sortie, et puis qui attend une autre conception, et lui, qui rentre dans un autre corps. Hein ? Non. Nous avons une existence unique. D'ailleurs, c'est extraordinaire qu'on ait une existence unique. Ah oui, mais pourtant, il y a des enfants qui jouent comme Mozart. À 7 ans, ce sera peut-être Mozart. Et puis, il y en a qui ont des souvenirs de leurs arrière-arrière-grands-parents, qui parlent de tout et tout ça. Ah ouais. Eh bien, vérifions bien ça tranquillement. Demandons bien ce qui a été dit et fait dans la famille pour voir ce que l'enfant dit ou fait. Et si c'était si fréquent, et si c'était si naturel, ça serait très fréquent. Il y a quelque chose qui ne va pas, voyez-vous. Alors, voyez-vous, tout cela, c'est pour vous faire comprendre que Dieu a créé d'autres êtres que nous, qui sont des anges, de purs esprits. Il a créé de la matière dans une quantité incroyable qui va au-delà, voyez-vous, et par fantaisie, et qui, si vous voulez, reproduit ce que des artistes font, par exemple, je vous prends l'exemple facile de la cathédrale. Parfois, à un endroit que personne ne verra, il faut un décor amusant, joli, qui leur même demande des heures de sculpture. Eh bien, excusez-moi, mais Dieu n'a pas fait la création que pour nous. Les anges, eux, peuvent le voir à travers le cosmos. Mais ce qu'il a créé, en point de vue matériel, au point de vue étoiles et planètes, il l'a fait pour sa propre joie et sa propre fantaisie. Nous, on le découvre petit à petit, par des sondes, par des télescopes très puissants. Mais si vous voulez, Dieu a sa propre vie. Il aime créer. Il aime créer de la matière. Alors vous vous dites, mais c'est merveilleux, le soleil c'est merveilleux. Enfin, quand il y a une éruption solaire, c'est moins merveilleux pour nous. Parce que ou quand vous avez des personnes qui sont écrasées par un tremblement de terre, c'est moins merveilleux. Mais en soi, c'est merveilleux. Vous avez les lois de la nature, la loi de la gravité, les noyaux des étoiles qui explosent, la surface qui se refroidit, qui font une planète, le cœur est encore incandescent, en fusion. C'est drôle. La Terre, c'est très drôle. C'est comme une orange avec des plaques tectoniques. C'est très très drôle. Seulement quand vous avez une explosion... en haute mer et que vous avez 200 000 morts sur les côtes par un tsunami, c'est moins drôle. Mais si vous voulez, c'est la nature comme Dieu l'a créée et comme il l'admire. Dieu a créé les fleurs sans nous. Dieu a créé les insectes sans nous. Dieu a créé des dinosaures qui sont morts. Et il s'est amusé à les créer. Voyez. Alors on va pas rester là-dessus, hein. On a encore plusieurs jeudis à se voir, hein. Et qu'est-ce que je veux vous dire? J'essaye de vous donner la foi en l'existence de Dieu. Pas évident. Dieu est un être tout-puissant, la source de toute existence, et en lui, il y a une vie foisonnante et imaginative et pleine de fantaisie. Et mettez-vous à la place de Dieu lorsque vous voyez tous les insectes, tous les papillons, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les fleurs de toutes sortes qu'on trouve partout, qu'on découvre chaque année, et la fantaisie avec laquelle Dieu a fait ça. Et c'est pas par évolutionnisme que ça s'est fait. C'est Dieu qui a fait des espèces qui peuvent avoir des micro-évolutions, comme par exemple des animaux qui vivent à 3000 mètres et qui vont devenir blancs. Bon. Mais ces propres animaux ont un tissu spongieux qui n'est pas l'œuvre du temps. Dieu a voulu créer des êtres qui vivent sous 3000 tonnes d'eau. C'est sans doute faux au point de vue scientifique. Vous avez 3000 mètres d'eau au-dessus d'eux qui les écrasent. Et ils sont là. Nous, à 3000 mètres, si on n'est pas dans une boule de plomb, de titane de 50 cm, on est écrasé. Et Dieu s'amuse à mettre des algues à cet endroit-là. Quel est le tissu de ces algues, de ces êtres qui sont sous des pressions pareilles? Eh bien, Dieu vous dit flûte, pour pas vous dire autre chose. Dit, ben moi j'ai fait aussi d'autres choses que pour vous. Mais les anges et vous-même dans la vie éternelle, vous y aurez accès. Mais le plus important pour moi, c'était que vous, dans votre propre vie, vous soyez heureux et que vous connaissiez suffisamment de choses pour être heureux. Mais sachez que moi, je suis la source de la vie. Et pour terminer, et vous laisser un peu souffler, Dieu est un esprit éternel, intelligence, volonté, artiste de la création, création des esprits angéliques appelés à entrer dans l'amour de Dieu, création du cosmos, des galaxies, de la terre, des plantes, des animaux, création de la nature humaine. Nous le verrons dans le récit de la création et dans l'intervention des anges.